À cette rencontre présentée dans le cadre de l'exposition Meeting, qui fait partie d'un cycle d'expositions intitulé Notre Intense. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Thomas Clair. Nous le remercions chaleureusement pour d'avoir accepté cette invitation. Donc Thomas Clair est écrivain et maître de conférences en littérature contemporaine à l'Université de Paris 10 à Nanterre. Il a édité en 2002 le cours d'Oran Lambarde sur le neutre, donc aux éditions du Seuil. Et il est également connu pour plusieurs livres, parmi lesquels Maurice Sachs, Le Désœuvré, sorti chez Alia en 2005. Cette rencontre va s'articuler autour de la notion de neutre, telle qu'elle a été développée par Roland Barthes. En écho à l'exposition, elle tentera ainsi de discuter la possibilité de l'intensité du neutre. Nous aurons également, en fin de rencontre, l'occasion de parler un peu du livre que Thomas Clair vient de sortir, qui est donc Paris, musée du XXIe siècle, le 10e arrondissement, qui est ce livre, qui a été publié chez Gallimard. Et voilà, donc dont la sortie a été très, très marquée, tant dans le milieu littéraire que dans le milieu de l'art contemporain. Voilà, peut-être en introduction, on va écouter un court extrait du cours de Barthes, qui est en fait une lecture qui fait de quelques extraits de textes, et on en a sélectionné deux, donc c'est des lectures qu'il fait un peu en préambule en fait du cours. Et là, on va écouter donc un extrait de Tolstoï, Guerre et Paix, et Barthes en train de lire Rousseau, donc les rêveries d'un promeneur solitaire.
Qu'est-ce ? Je tombe, mes jambes flageolent, se dit-il, et il s'écroula sur le dos. Il rouvrit les yeux, espérant voir l'issue de la lutte engagée entre les Français et les artilleurs, avide de savoir si oui ou non l'artilleur Roux était tué et la batterie conquise. Mais il ne vit plus rien. Il n'y avait plus au-dessus de lui que le ciel, un ciel voilé, mais très haut, immensément haut, où flottaient doucement des nuages gris. Quel calme, quelle paix, quelle majesté, songeait-il. Quelle différence entre notre course folle parmi les crises et la bataille. Quelle différence entre la rage stupide des deux hommes qui se disputaient le refouloir et la marche lente de ces nuages dans ce ciel profond, infini. Comment ne l'ai-je pas remarqué jusqu'alors, et que je suis heureux de l'avoir découvert enfin. Oui, tout est vanité, tout est mensonge, en dehors de ce ciel sans limite. Il n'y a rien, absolument rien d'autre que cela. Peut-être même est-ce un leurre, peut-être n'y a-t-il rien, à part le silence, le repos. Et Dieu en soit loué. Quatrième texte, c'est de Jean-Jacques Rousseau, Rêverie, les rêveries du promeneur solitaire. La seconde rêverie, ou la seconde promenade, Rousseau va un jour, le 24 octobre 76, il va herboriser à la campagne, c'est-à-dire à Ménilmontant. Et voici ce qu'il écrit. Le jeudi 24 octobre 1776, je suivis après dîner les boulevards jusqu'à la rue du Chemin Vert par laquelle je gagnais les hauteurs de Ménilmontant, et de là, prenant les sentiers à travers les vignes et les prairies, je traversai jusqu'à Charonne, le riant paysage qui sépare ces deux villages, puis je fis un détour pour revenir par les mêmes prairies en prenant un autre chemin. J'étais sur les 6 heures à la descente de Ménilmontant, presque vis-à-vis du galant jardinier, quand des personnes qui marchaient devant moi, s'étant tout à coup brusquement écartées, je vis fondre sur moi un gros chien danois qui, s'élançant de toutes jambes devant un carrosse, n'eut pas même le temps de retenir sa course ou de se détourner quand il m'aperçut. Je jugeai que le seul moyen que j'avais d'éviter d'être jeté par terre était de faire un grand saut, si juste que le chien passa sous moi tandis que je serais en l'air. Cette idée plus prompte que l'éclair et que je n'eus le temps ni de raisonner ni d'exécuter fut la dernière avant mon accident. Je ne sentis ni le coup ni la chute, ni rien de ce qui s'ensuivit jusqu'au moment où je revins à moi. La nuit s'avançait. J'aperçus le ciel, quelques étoiles et un peu de verdure. Cette première sensation fut un moment délicieux. Je ne me sentais encore que par là. Je naissais dans cet instant à la vie, et il me semblait que je remplissais de ma légère existence tous les objets que j'apercevais. Tout entier au moment présent, je ne me souvenais de rien. Je n'avais nulle notion distincte de mon individu, pas la moindre idée de ce qui venait de m'arriver. Je ne savais ni qui j'étais, ni où j'étais. Je ne sentais ni mal, ni crainte, ni inquiétude. Je voyais couler mon sang comme j'aurais vu couler un ruisseau, sans songer seulement que ce sang n'appartint en aucune sorte. Je sentais dans tout mon être un calme ravissant, auquel chaque fois que je me le rappelle, je ne trouve rien de comparable dans toute l'activité du plaisir connu.
Donc pour commencer cette discussion, j'aimerais peut-être que nous abordions quelque chose qui me semble être au cœur de la notion de neutre, telle qu'elle a été développée par Barthes, c'est la question du paradoxe. Donc au fil des séances, cette approche se traduit notamment par l'utilisation de récurrentes expressions aux allures d'oxymorons, par exemple violence du neutre ou scandale du neutre ou encore désir du neutre, qui aurait pu d'ailleurs être le titre de l'ensemble des cours, selon Barthes. Il y a également cette citation, le neutre comme désir met continuellement en scène un paradoxe, comme objet il est suspension de la violence, comme désir il est violence. Le premier paradoxe du neutre semble être celui qui se dessine entre la manière dont Barthes entend cette notion et le sens qui est habituellement associé au terme neutre. Donc il y a également cette sorte d'opposition entre donc aux connotations de grisaille, de neutralité, d'indifférence associées au neutre. Barthes oppose l'idée d'un neutre renvoyant à des états forts, intenses, inouïs. Peut-être pourriez-vous, à partir de cette notion de paradoxe, préciser de quelle manière Barthes entend cette question du neutre.
Oui, alors sur cette question du paradoxe, c'est évidemment très important. On peut rappeler tout simplement que le paradoxe est une figure de style, tout simplement, et que c'est pas un hasard, évidemment, si Barthes a fait du neutre, disons, quelque chose qui était fondamental pour lui. Je peux partir de l'idée tout simplement que le neutre est déjà un paradoxe, c'est-à-dire une figure de style, donc une façon, en fait, de prendre un concept stylistique, une figure de style, donc, pour l'appliquer, pour le transférer, en fait, dans le champ de l'existence. Ça, c'est quelque chose qui est très important, à mon avis. C'est que pour lui, la stylistique, ou la rhétorique, disons, n'est pas simplement une discipline, mais, c'est-à-dire une discipline notamment universitaire, il se trouve que j'enseigne la rhétorique, donc, aussi, et surtout, évidemment, une façon d'envisager l'existence. Et notamment par le fait que, par exemple, le paradoxe, donc le paradoxal, le contre-doxal, ce qui est contre l'opinion publique, ce qui est donc déjà un côté un peu promeneur solitaire, justement, finalement, la première idée, c'est que finalement la figure de style peut être une façon de vivre. Voilà. Et que, d'une certaine manière, il y a plusieurs figures de style, il y en a un nombre d'ailleurs infini, il y a un nombre non fermé de figures de style, ce qui est assez beau, peuvent déterminer des choix de vie. Voilà. Et le neutre, en ce sens, est une façon de vivre, probablement. Une façon de vivre et de penser. C'est en ce sens qu'il est un paradoxe, parce que, évidemment, pour Barthes, le neutre n'est pas le neutre. C'est-à-dire, le neutre au sens où il l'entend n'est évidemment pas le neutre au sens où le mot neutre est très lourdement connoté de manière négative dans le langage doxal, dans le langage courant, dans le langage de l'opinion publique. C'est-à-dire qu'en fait, l'un des intérêts du cours de Barthes, de ce cours sur le neutre, enfin l'une des beautés de ce cours, c'est que le neutre n'est pas la neutralité. C'est exactement même l'inverse, en un sens. Si on entend par neutralité la passivité, l'indifférence, le ni oui ni non, c'est finalement, il essaye d'ériger un nouveau sens du mot neutre. C'est en ce sens que le cours est vraiment passionnant. C'est en ce sens que Barthes est un vrai créateur, évidemment, c'est qu'il change le sens des mots. C'est-à-dire, il prend des mots qui sont, enfin, en l'occurrence, il prend un mot qui est, disons, mal perçu, et il le transforme en un concept, ou le concept n'est peut-être pas bon, mais enfin, il le transforme de manière positive. Et il le transforme de manière positive en déclarant, assez brutalement d'ailleurs, que pour lui, le neutre, effectivement, comme vous l'avez dit, est quelque chose d'intense. C'est-à-dire, Et en ce sens, évidemment, on est à nouveau dans une figure de style, cet oxymore, cette contradiction dans les termes, qui fait que le neutre n'est pas, disons, quelque chose qui serait de l'ordre de la, du retrait, mais au contraire, que le neutre est une intensité. Et il va décliner donc dans le cours toutes les figures qui correspondraient à ce que c'est que pour lui le neutre en tant qu'il est intense. C'est évidemment la, la beauté du cours, entre autres, vient de là, c'est-à-dire à la fois donc de revaloriser le neutre et de montrer quelles sont les figures qui pourraient justement entrer en résonance avec cette, cette intensité du neutre.
D'accord. En fait, quelque chose qui est aussi très présent dans, dans le cours, c'est le fait qu'on a l'impression qu'il y a vraiment une forme de... qu'il est irrésolu, en fait, ce, ce paradoxe est irrésolu. Et ça, ça semble être quelque chose qui le garde un peu en tension,
oui.
Jusqu'au bout, au fil des séances.
Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas fixé une fois pour toutes. C'est-à-dire qu'au fond, dans chacun des figures, dans chacune des figures du cours, il rejoue cette question de l'oxymore, c'est-à-dire cette question de la relation entre le neutre et l'intensité. Et effectivement, d'une certaine manière, on pourrait dire que tout le cours est dans cette sorte de tension, dans cette sorte de suspension, finalement, entre deux concepts contradictoires. Ce qui est très beau chez Barthes, au fond, c'est que c'est un être qui est souvent, d'ailleurs, perçu, à mon avis, à tort, comme un être, justement, finalement, je dirais, peut-être un peu trop contrôlé, un peu trop maîtrisé, etc. Ce cours, entre autres, dit le contraire. C'est-à-dire, ce cours montre un Barthes, justement, qui est travaillé par des passions qui sont neutralisées, mais ce qui ne veut pas dire, justement, éliminées, mais au contraire, qui sont des passions qui sont vivantes, tout en étant neutralisées. Enfin, c'est assez superbe de ce point de vue-là, évidemment. C'est un chef-d'œuvre, le neutre.
Et puis donc voilà, il décrit notamment cette, enfin, le neutre. Donc la définition qu'il y a du neutre, c'est ce qui déjoue le paradigme.
Oui.
C'est ça ? Peut-être on peut parler un peu de ça.
Oui, oui. Alors il commence effectivement de manière assez linguistique. Il dit que le neutre, enfin, il prend finalement l'origine du mot neutre, ne uter en latin, c'est-à-dire ni l'un ni l'autre. Et il va tout de suite montrer la filiation linguistique de cette position du ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'au fond, le neutre pour lui, notamment, est une sorte de, on pourrait dire, de procédure qui lui permet de, je cite, je reprends l'expression, donc déjouer le paradigme. C'est-à-dire, en fait, le paradigme étant compris comme le système d'opposition sémantique. C'est-à-dire l'opposition riche-pauvre, méchant-gentil, blanc-noir, etc. Bon. Donc on pourrait dire que le sens est produit, au fond il montre très bien linguistiquement, que le sens se produit toujours par des constitutions de paradigmes, c'est-à-dire que nous pensons finalement de manière oppositionnelle, de manière binaire. Nous sommes structurés comme ça, c'est encore l'idée rhétorique finalement, l'idée que la rhétorique détermine l'existence, c'est-à-dire détermine nos mentalités. Voilà. Bon. Et à partir de ce moment-là, le neutre serait justement ce qui permet de dépasser... de neutraliser finalement cette opposition par la création permanente d'un troisième terme, c'est-à-dire un terme qui permet de dépasser ces oppositions dans lesquelles on nous renvoie en permanence, c'est-à-dire le côté bon féminin masculin, gauche droite, capitaliste, anticapitaliste, etc. Bon, donc il y a bien le côté là très moderne pour moi de Barthes qui est de justement de refuser à la fois la logique de la doxa, mais aussi une certaine logique oppositionnelle brutale qu'il récuse. C'est vraiment très inventif. Enfin, pour moi, je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement enrichissant pour l'individu sur un plan bien sûr intellectuel, mais très concret en fait dans son mode d'existence quotidienne. C'est-à-dire d'empêcher que le sens prenne. Ça, c'était un grand fantasme très important chez Barthes. Il faut empêcher que le sens soit constitué. Il faut empêcher que, et notamment le sens dans son côté binaire, dans son côté où vous êtes. Où vous êtes là, où vous êtes ici. Eh bien, le neutre, c'est trouver des solutions pour ne pas, disons, être enfermé dans ce paradigme. Et donc, il va trouver des applications, si on peut dire, tout au long du cours. Enfin, ce sont des applications, bien sûr, qui ont quelque chose, évidemment, de, comment dire, de fantasmatique. C'est-à-dire que, évidemment, c'est pas un mode d'emploi. Enfin, on peut le prendre aussi comme ça. Il y aura presque un côté situationniste chez Barthes, presque. Enfin, moi, je l'interpréterais un peu comme ça. Mais c'est-à-dire le côté... Vous êtes dans une situation concrète où, finalement, les choses vous enferment. On vous enferme. Enfin, des discours vous enferment dans des choix. où vous êtes avec nous, vous êtes contre vous, contre nous, eh bien, il faut trouver à ce moment-là des solutions. Et le neutre serait une sorte de, justement, de situation, en un sens, enfin, de manière de manière de tirer parti d'une situation qui vous est faite. Alors, il faudrait trouver des. Voilà.
Ok, donc un deuxième point que j'aimerais aborder, la méthode de travail que Barthes a développée tout au long du cours. Mm-hmm. Donc le projet de Barthes ne constitue pas une tentative de définition du neutre, mais s'articule au contraire autour d'une volonté de déployer une notion. Il dit ainsi, je ne fabrique pas le concept de neutre, j'étale des neutres. Donc dans la préface du livre, vous montrez l'importance de l'utilisation de figures et aussi d'un système aléatoire comme principe d'organisation du cours. Barthes lui-même met l'accent en fait dès le premier cours sur sa méthode de travail. Et vous montrez également dans la préface comment en fait comment les définitions du neutre fonctionnent en fait comme des scintillations. Voilà, pourriez-vous peut-être préciser la nature de la méthode de travail de Barthes, oui. tout au fil du cours.
Oui, alors vous avez tout à fait raison de dire que le neutre n'est pas un concept, au sens où ce n'est pas le neutre, les cours de Roland Barthes au Collège de France, c'est pas de la philosophie en fait, au sens où il y a une dimension philosophique, mais c'est plutôt quelque chose qui relèverait de ce que j'appelle moi la forme de vie. En fait, le neutre est une forme de vie plutôt qu'un concept. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas en donner une définition. Le neutre échappe en un sens. Il échappe à une définition qui serait trop stable. Et c'est la raison pour laquelle il construit son cours d'une manière assez belle, qui est par exemple le fait que il ne va pas donner un sens du neutre, mais il va donner des scintillations et par exemple il va classer son cours selon. Donc il y a différentes figures, il y a une dizaine de figures, la colère, le sommeil,
silence.
Le silence, tout un ensemble de choses, les idéosphères, des choses tout à fait. Voilà, disons qu'il passe en revue un certain nombre de ce qu'il appelle des traits, et il va par exemple les classer de manière aléatoire, c'est-à-dire que en fait le cours, l'édition du cours reproduit bien sûr cet ordre aléatoire qui correspond aux différentes séances qui avaient lieu le samedi matin de octobre 77 à mars 78, c'est-à-dire que il n'y a pas du tout de progression, si vous voulez, vers une sorte de révélation du neutre. Il y a un classement qui se fait de manière totalement aléatoire, qui n'est pas un classement alphabétique, mais un classement aléatoire, disons. C'est-à-dire qu'il a classé les figures dans un ordre qui est complètement qui est dépendant du hasard. Il s'en explique. Il fait des correspondances, il prend une table de concordance, je ne sais plus quel ouvrage, un ouvrage statistique, je crois, et il fait des sortes de un tirage au sort en quelque sorte par le hasard. Donc déjà cette notion de hasard est assez belle, évidemment, elle est dans la mesure où l'ordre du livre est hasardeux. L'ordre de présentation des traits est hasardeux, il n'obéit pas à une finalité disons qui le sépare à ce moment-là d'un traité purement philosophique. Où justement il y aurait une construction dialectique en trois parties avec le neutre n'est pas ceci, le neutre n'est pas cela, et puis non, ce serait au contraire des figures. C'est le côté littéraire de Barthes, évidemment, c'est-à-dire le côté je substitue l'ordre aléatoire au concept.
On a l'impression qu'il y a vraiment une tentative de recherche d'une forme qui correspondrait en fait au contenu.
Voilà, exactement. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est assez drôle parce que Barthes dit ça n'intéresse personne, cette façon que j'ai d'organiser mon cours. Les gens veulent absolument le contenu, savoir exactement ce que c'est que le neutre. Et finalement, il dit mais personne ne s'intéresse à la méthode que j'ai de présenter les différentes figures, selon donc cette méthode d'aléatoire qui est assez belle. Et effectivement, c'est bien déjà l'idée de penser le cours comme une œuvre, déjà. En un sens, c'est ce que je dis dans ma préface, et que pour moi, Barthes est un professeur artiste, c'est-à-dire qu'il investit le champ, du savoir par celui de la saveur, c'est-à-dire l'idée que le cours peut aussi bien être un objet d'art, finalement. Et, par exemple, l'idée de construire son cours de cette façon, très différente, par exemple, je ne sais pas, à la même époque du cours de Foucault, par exemple, qui est évidemment tout à fait magnifique, bien sûr, aussi, mais qui est tout à fait différent dans le traitement même du cours. En ce sens, En ce sens, pour Barthes, je pense que la notion de performance, elle se fait justement dans ce classement aléatoire des figures. Puisque Barthes a un problème avec l'oral, comme on le sait. C'est-à-dire, il n'aime pas trop faire court, en fait. Vous savez, il est dans ce rapport un peu où pour lui l'écrit a tendance à être prédominant par rapport à l'oral. Donc il va en quelque sorte essayer de neutraliser, si je puis dire, le caractère théâtral de l'oral qu'il n'aime pas, qui lui fait peur. Vous savez que Barthes est obsédé par la peur, hein, c'est son grand thème dans la vie. Toute ma vie, j'ai eu peur. C'est une épigraphe qu'il emprunte à Hobbes. La grande passion de ma vie a été la peur. Et c'est la peur notamment de l'oral. Et donc, en quelque sorte, l'oralité du cours qui lui fait peur, eh bien, il la déjoue par, justement, cette espèce de construction assez belle des figures aléatoires. L'aléatoire, c'est ce qui permet de vaincre la peur, par exemple. Notamment la peur de ne pas arriver à démontrer quelque chose. Ça, c'est ça qui est très beau. C'est qu'au fond, il n'a rien à démontrer. En ce sens, il n'est pas rhétorique. C'est-à-dire qu'il. Et donc, il invente une méthode qui fait du bouquin une sorte d'œuvre d'art, oui, en un sens.
D'accord. Et qui permet aussi, de ne pas clore le sens.
Voilà, fait, absolument. Ça. Toujours la grande idée de Barthes, c'est de ne pas être dans le sens, de ne pas faire non plus du non-sens, puisque, évidemment. Oui, un exemple typique de neutre. Bon. Comment faire avec le sens? Soit il y a les écrivains qui sont dans le sens, les mauvais écrivains, Malraux, par exemple. Phrase très drôle de Barthes. Ce qui m'intéresse chez Malraux, c'est qu'il avait l'air intelligent par hasard. C'est la seule phrase qu'il a dite sur Malraux. Je trouve ça très juste. Enfin bon. Et donc, mais alors, en même temps, Barthes n'aime pas non plus les surréalistes. Hein. Pourquoi? Parce que les surréalistes pratiquent le non-sens systématiquement. Donc, rien de plus ennuyeux que l'écriture automatique. Bon. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjouer le sens. Et non pas par le non-sens, mais par une sorte de dérivée du sens. Par une sorte de déception du sens. Et non pas par un anti-sens. Ça, c'est un exemple type, par exemple, d'une approche littéraire du neutre, par exemple, par rapport à la question du sens.
D'accord, donc un autre point marquant de la méthode de travail de Barthes, c'est la manière dont il juxtapose au fil des séances de nombreuses références, et qui sont souvent très éloignées les unes des autres. Toujours dans la préface, vous parlez d'une dimension esthétique du cours. Tant Barthes établit des rapprochements inédits entre des livres et des auteurs, le cours s'articulant souvent sous la forme d'un montage très élaboré. Dans le même sens, le champ d'investigation de Barthes n'est absolument pas lié à une discipline précise, et on a l'impression que Barthes se plaît à juxtaposer et confronter des domaines très différents, donc depuis les mystiques orientaux et médiévaux jusqu'à ses contemporains, Blanchot, Gide, en passant par les sceptiques grecs ou des personnalités telles que John Cage, Maître Eckhart ou Walter Benjamin. Voilà, comme il l'énonce lui-même, en fait il a promené le neutre tout au long de ses références. Peut-on parler, selon vous, d'un sens qui se créerait de cette juxtaposition?
C'est-à-dire que ce qu'il y a de très beau dans cette juxtaposition, encore une fois, c'est une espèce d'oxymore. C'est-à-dire qu'il est capable, effectivement, comme vous l'avez dit, de convoquer des gens qui n'ont rien à voir ensemble. C'est un peu une sorte d'auberge espagnole, au sens où... vous mettez John Cage, Maître Eckhart, les taoïstes et Léon Blois dans une salle, est-ce qu'ils ont quelque chose à se dire? Bon, on ne sait pas, quoi. A priori, non. Bon. Ce qui est très beau, c'est sinon ce régime des esthétiques plus ou moins incompatibles, en fait. Ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup personnellement. Je suis moi-même, je suis très touché par ça, en fait. C'est-à-dire que ce qui me frappe toujours chez les intellectuels, c'est l'homogénéité de leurs références. Chez Barthes, c'est le contraire. Barthes est, de ce point de vue-là, relativement marginal dans le champ. Dans le champ intellectuel, c'est que notamment dans le cours sur le neutre. Dans le cours sur le neutre, il croise des choses qui, a priori, n'entrent pas dans un régime de discours qui est prévisible. En ce sens, c'est assez neutre, c'est une méthode typiquement neutre. C'est-à-dire, mais au sens où, ce n'est, au sens qu'il va donner très puissamment au neutre, qu'en fait, le neutre n'est pas tellement un ni, néouter étymologique, mais un et. C'est un renversement d'ailleurs splendide dans le cours. Il dit que il appelle ça le petit suspense du cours. Il dit au bout de la troisième quatrième séance, il dit bon je réserve petit suspense du cours. Le suspense du cours c'est ça en fait, c'est le sens de au sens de mêler des choses qui ne vont pas ensemble a priori. Donc on passe du ni qui est un régime d'exclusion, qui est le régime finalement étymologique du neutre, un régime stratégique du neutre, c'est-à-dire le « et ». Le une chose et une chose. Et je crois que le cours fonctionne de cette façon-là, c'est-à-dire, et l'esthétique de Barthes fonctionne très grandement dans ce cours de cette façon-là, c'est-à-dire de mêler, de parler de Tolstoï. Vous avez cité Tolstoï et Rousseau, bon, déjà par exemple des écrivains dont le rapport est inévident, mais évidemment qu'il rapproche par ces deux éléments dans ce que nous avons lu, enfin ce que Barthes a lu, pardon. Je commence à m'identifier un petit peu. C'est la chute, enfin c'est l'accident physique. Le prince André dans Guerre et Paix, il tombe dans la neige et Rousseau se fait renverser par un chien. Bon, tout à coup, c'est l'idée de trouver un point commun alors que ce sont deux écrivains qui n'ont rien à voir. Le troisième texte, par exemple, il commence très brutalement par un texte de Joseph de Maistre, par exemple, qui est un penseur réactionnaire du XVIIIe siècle, antirévolutionnaire. On se demande ce que ça vient faire là. Enfin, là c'est le côté provoque un petit peu de Barthes, c'est le côté, bon, la langue est fasciste, voilà, je vais vous déclarer des trucs qui ne sont pas prévus. Il faut surtout pas affadir Barthes, comme le font ses héritiers, la plupart de ses héritiers en tout cas, mais sauf moi, je pense. C'est-à-dire que l'adoucir, c'est-à-dire faire de Barthes un défenseur de la langue française, etc. C'est pas son problème du tout. Pas son problème du tout. Son problème, c'est de mêler des esthétiques incompatibles. Enfin, en tout cas, de présenter dans le neutre une forme de vie qui est justement de mêler des contraires. Encore une fois, l'oxymore, c'est-à-dire. Et le neutre, c'est peut-être ça. C'est au fond, comment est-ce que je peux, en tant que sujet vivant, faire l'économie de choses qui sont antagonistes.
Quelque chose d'important également, c'est le fait qu'il ne parle absolument pas en tant que spécialiste.
Ah oui, ça c'est très beau quand il dit oui, tout à fait. C'est l'anti-spécialiste, c'est-à-dire son hyper-éclectisme qui est vraiment très très agréable parce que c'est à la fois extrêmement stimulant intellectuellement. Bon, et dans ce cours sur le neutre, j'ai appris des tas de choses, des sujets auxquels je ne me serais jamais intéressé a priori. Je ne suis pas du tout mystique, mais je me suis tout à coup intéressé un petit peu, disons. Au grand mystique, à Maître Eckhart, au bouddhisme, etc. Des choses. Donc déjà, ça c'est très important, cet éclectisme, qui est le contraire donc d'un spécialiste, en fait. Pourquoi c'est très beau? Parce que c'est un rapport de non-pouvoir aux disciplines que l'on traite. C'est exactement le contraire de l'université, où vous avez des spécialistes, ou j'ai des collègues qui sont spécialistes de Zola, ou de spécialistes de la tragédie, des dernières tragédies de Corneille. Bon. Moi, je ne suis même pas un spécialiste de Barthes, au sens où je ne suis pas barthésien, par exemple. Je ne suis pas un disciple. J'ai horreur des disciples. Donc, ce qui est très beau, c'est justement ce rapport où il dit très bien, quand je parle de quelque chose, je ne suis pas spécialiste de cette chose. Pourquoi? Parce que le spécialiste de la chose, évidemment, vous interdit toute approche de ce sujet. Il dit très joliment dans le cours, il dit, quand je parle de quelque chose, à la limite, il ne faut pas me croire. C'est-à-dire, je parle de quelque chose que je ne connais pas. Il revalorise une certaine forme d'incompétence, ou plus exactement d'hétéronomie par rapport à son sujet. Et c'est évidemment par rapport à cette position d'hétéronomie. Ça, c'est typiquement neutre, par exemple. C'est-à-dire, c'est par rapport à cette position d'hétéronomie qu'il va pouvoir créer des choses. Barthes est un grand créateur, c'est pas du tout le spécialiste d'un domaine. D'ailleurs, c'est extraordinaire quand on voit son évolution intellectuelle. C'est quelqu'un qui a parfaitement compris tous les systèmes intellectuels de son époque, et qui, une fois qu'il les a compris, il est passé à un autre. Donc Barthes est un traître, pour moi, c'est absolument, mais au sens positif. Évidemment. Barthes est le grand traître intellectuel des années 60-70. Mais dans le sens où, qu'est-ce que c'est qu'un traître? C'est quelqu'un qui est marxiste, et puis à un moment, une fois qu'il a fait le tour de la doxa marxiste, parce que c'est fatigant le marxisme, il passe à autre chose. Donc il passe au structuralisme. Et puis il écrit système de la mode, et puis après système de la mode, comme c'est l'absolu du structuralisme, il faut passer à autre chose. Donc il passe à une parole plus autobiographique. Et puis ensuite il va passer à une période sémiologique, etc. C'est très beau cette façon qu'il a d'investir une discipline, comme il est super intelligent. Il comprend parfaitement la discipline, et une fois qu'il l'a épuisée, en quelque sorte, il passe à autre chose. Mais pas, je dirais, par stratégie, par désir. Et le neutre, c'est ça, en un sens. C'est-à-dire, c'est cette façon d'être et marxiste, et sémiologue, et autobiographe, et s'intéresser à la photo, et s'intéresser à la publicité, et s'intéresser à... C'est ça qui est splendide, au fond. J'avais été à un colloque il y a 2 ans au Centre Pompidou sur Roland Barthes. C'était extraordinaire, il y avait les disciplines, les spécialistes de chaque, enfin, des grands spécialistes de chaque discipline, le spécialiste de la photo, enfin, un spécialiste de photo, un spécialiste du structuralisme, etc. Ils disaient tous, Barthes n'a rien compris à Voltaire, Barthes n'a rien compris à la photographie, Barthes n'a rien compris à la mode, etc. Barthes n'a rien compris à la publicité. C'est eux qui avaient rien compris, évidemment. C'est-à-dire, ce sont les spécialistes de chaque domaine, qui en quelque sorte se sentent dépossédés par une approche qui est une approche de pirate, en fait. Moi, ce que j'appelle le traître, mais Barthes, en un sens, est une sorte de pirate. Il pirate chaque discipline, il en livre la meilleure version, les mythologies, par exemple, pour être marxiste, aujourd'hui, il suffit de lire les mythologies. L'abbé Pierre, qu'est-ce que c'est ? Bon, c'est un alibi, évidemment. Bon, entre autres, c'est une figure d'alibi, bon, par exemple. Donc, il pirate chaque discipline, et une fois que son désir est éteint, son désir de la discipline est éteint, il passe à une autre chose. Et le neutre, c'est un petit peu, fonctionne un peu de cette façon-là aussi. Vous voyez l'intensité du neutre, c'est-à-dire, c'est surtout ne pas être un militant de la discipline dans laquelle on est, en un sens. Ça, c'est évidemment, pour le désir, extrêmement important. C'est l'idée de fuir toujours le neutre en un sens. Mais ce n'est pas une fuite, évidemment, on lui reproche à ce moment-là, le reproche classique que l'on fait à Barthes, c'est justement de fuir au sens hystérique du terme, finalement. Bon, vous fuyez la discipline. Non, pas du tout, je séduis la discipline, mais bon, une fois que, voilà, à un moment donné, je crois qu'on fonctionne presque souvent comme ça, c'est-à-dire... On fonctionne par une sorte d'appropriation d'un domaine et ensuite il faut passer à autre chose, sinon c'est terrifiant, enfin, je pense.
D'accord. Et justement, peut-être une méthode qu'il a utilisée pour conserver cette sorte d'hétérocline, c'est juste se baser sur une bibliothèque qui n'est absolument pas exhaustive. Enfin, je crois que c'est sa bibliothèque de vacances.
Oui, c'est la bibliothèque de sa maison de campagne, oui. Alors, c'est évidemment toujours assez... On se doute bien que la bibliothèque, malgré tout, de Roland Barthes, doit quand même être quelque chose qui n'est pas, évidemment, n'importe quoi. Mais c'est quand même la bibliothèque de la maison de campagne, enfin de la maison de sa mère à Urte, au Pays Basque. Et donc, bon, j'aime bien cette idée, effectivement, de piocher, de créer sa réflexion à partir d'un endroit qui est décentré, non pas travaillé à Paris, mais travaillé dans une maison de campagne. Et on sait bien quand même que la maison de campagne, c'est toujours un lieu de seconde main. Notamment au niveau des bibliothèques, je veux dire au sens de ce qu'on trouve comme bouquin dans une maison de campagne. C'est presque une méthode d'ailleurs assez intéressante, il y a des gens qui emportent leurs bouquins en vacances quand ils vont dans des maisons de campagne, puis des gens qui disent non, moi je lirai ce qu'il y a sur place. Ce qui nous permet évidemment de lire des auteurs qu'on ne lirait pas, parfois, bon, sauf quand on va chez mon père, mais enfin ça c'est une autre question. Donc, c'est-à-dire que il y a cette idée de créer, oui, à partir de seconde main. On voit bien d'ailleurs que dans le neutre qu'il ne domine absolument pas tous ces sujets. C'est exactement le contraire. Il se fait en quelque sorte, il se fait un peu dominer par ses sujets en fait, qui sont évidemment des sujets passionnels pour lui. Mais il ne les domine pas entièrement au fond. C'est ça qui est très beau. C'est quand il parle des idéosphères par exemple quand il parle du silence, bon, il mentionne John Cage, par exemple, des choses comme ça, mais il n'est pas du tout un spécialiste de John Cage, mais il va croiser John Cage et puis une réflexion des cyniques grecs, par exemple, sur le silence ou des choses comme ça. Ouais. Il va croiser des choses grâce à une méthode qui est presque une méthode un peu artisanale, de dilettante, de pirate, comme on veut. Au fond, il y aurait plusieurs figures à convoquer pour recréer un nouveau Barthes. Surtout ne pas faire ce que font les barthésiens, c'est-à-dire de faire semblant de croire. Les vrais traîtres, bien sûr, ce sont les barthésiens aujourd'hui. Moi, je m'exclus d'eux, hein, je vous le dis tout de suite. C'est-à-dire de faire comme si Barthes était quelqu'un qui était un nostalgique, au fond. C'est exactement le contraire. Barthes est un très grand moderne. Enfin, c'est comme ça qu'il faut le voir, je pense. Ça, c'est une polémique interne à l'intérieur des barthésiens, mais comme ils sont tous... forcément, ils veulent tirer Barthes vers ce qui n'est pas intéressant chez Barthes, c'est-à-dire... justement, le côté peut-être plus nostalgique. Bon. Voilà, le neutre est un cours de ce point de vue. Les cours, notamment, sont vraiment extrêmement stimulants. Celui-là, comme la préparation du roman aussi, qui est un très très beau cours, hein, qui est traditionnellement, excusez-moi, interprété comme un échec. Les barthésiens disent, regardez comme Barthes était triste à la fin de sa vie, il n'arrivait pas à écrire un roman. Ils n'ont rien compris. La préparation du roman, c'est de l'art conceptuel. C'est-à-dire que Barthes explique très clairement comment ça n'a aucun intérêt d'écrire un roman. Ce qui est génial, c'est d'écrire un texte où on montre comment on pourrait écrire un roman. Et vous avez Antoine Compagnon, professeur au Collège de France, qui vous dit, regardez Barthes, vraiment, il n'a même pas réussi à écrire un roman. C'est exactement le contraire. Il s'en fout complètement du roman. D'ailleurs, plus personne n'écrit de roman à ce moment-là. Il écrit quelque chose qui est une réflexion sur, tiens, qu'est-ce que je ferais si j'écrivais un roman? Et là, ça devient absolument passionnant, évidemment. Voilà, je suis un peu égaré, pardon.
C'est quelque chose qu'on a déjà évoqué, mais j'aimerais peut-être revenir sur la place du neutre dans la vie de Barthes, oui. En fait. Voilà, On peut dire peut-être que le neutre en fait a pris peut-être plusieurs noms au fil de la carrière de Barthes. Par exemple, le degré zéro semble voilà très précisément se rattacher à cette notion, ou encore le troisième sens. Donc au-delà de la place que le neutre occupe dans les écrits de Barthes, ça semble également relever de préoccupations encore plus personnelles. Donc il y a par exemple cette expression désir de neutre qui montre vraiment à quel point le neutre semble ancré dans sa vie. Et Barthes, à un moment donné du cours, définit le neutre comme son propre style de présence aux luttes de son temps. Voilà, quelle place occuperait le neutre dans la vie de Barthes?
C'est vrai que c'est un fantasme très ancien chez Barthes, enfin ancré dès le départ, puisque l'un de ses premiers textes, le degré zéro de l'écriture, est déjà une sorte de méthode, on pourrait dire, pour parler de littérature, et à mon avis pour en produire aussi, évidemment. Au sens où d'ailleurs, pour lui, chez lui, la méthode et la création ne sont jamais éloignées, enfin, c'est-à-dire que les deux vont ensemble. Quand il écrit le degré zéro de l'écriture en 54, je crois, ça c'est son premier grand texte. En fait, c'est fabuleux de voir. Justement, je disais que Barthes était un traître il y a quelques instants, mais je dis qu'il y a aussi une fidélité. Évidemment, le traître est toujours aussi d'une certaine manière fidèle à certains objets. Et cette fidélité, ça serait, oui, finalement, soit ce degré zéro, soit ce troisième sens. C'est-à-dire cet ensemble de choses qui a pris des formes différentes autour de sa vie. Je pense que chez Barthes, il y a un désir d'approcher ce qui est littéral, c'est-à-dire il y a une grande fascination pour le littéral. Barthes n'aime pas trop la métaphore, en ce sens il est absolument contemporain pour moi, au sens où c'est un très bon guide pour justement une écriture qui serait dépouillée de tous ces signes, de tout le côté justement. Sursignifiant, enfin, d'où son goût pour la poésie japonaise, par exemple, bon, le haïku. Il était un grand amateur qui est la poésie vraiment anti-occidentale de ce point de vue-là, c'est-à-dire une poésie complètement délestée du sens ou délestée de la signification, c'est-à-dire du désir de faire sens. Donc, et ça a traversé, oui, effectivement, toute son existence. Il lui donne dans le neutre, ce qui est très beau, c'est que le neutre, donc, est. Il lui donne une consistance à ce, il donne une consistance à ce désir. C'est pour ça aussi qu'il dit désir de neutre. Il parle de désir de neutre parce que il va pouvoir enfin en 77. Il a quand même, en 77, il a quel âge? 62 ans. Il lui reste 3 ans à vivre. Bon, il ne sait pas encore. Simplement, il sait qu'il est frappé par le deuil puisqu'au moment où il commence le cours, sa mère meurt. Ce qui pour lui, évidemment, est l'événement fondamental de sa vie. Enfin, l'un des événements fondamentaux de sa vie puisque cette mort de sa mère va coïncider pratiquement avec la sienne propre dans la mesure où 2 ans plus tard, Barthes meurt. Et donc justement le désir de neutre c'est assez beau parce que c'est une manière qu'il a enfin de pouvoir faire rayonner, faire scintiller ce fantasme très ancien chez lui de quelque chose de littéral ou bien de troisième sens. Et ce qui est très beau évidemment c'est qu'au moment où il commence à explorer cette voie du neutre il ne pourra pas développer plus que dans ce cours, mais il y a. Oui.
Il y a un moment donné du cours où Barthes évoque l'idée d'un. Il raconte que, aux États-Unis, dans les années 50, il y avait ces disques de silence qui pouvaient être joués dans les jukebox. Oui. Et on a quelquefois l'impression que lui aimerait, voilà, jouer ce disque, oui. Peut-être aussi au niveau du bavardage qui peut exister autour de lui.
Oui, c'est. Bon, le silence est une figure évidemment fondamentale du neutre, au sens où le silence, bien sûr, vient déjouer ce dont Barthes avait horreur, qui est précisément le bavardage, effectivement. Alors là, le silence est une bonne, est une belle figure de ce point de vue-là, et est une figure tactique, même par moment, il explique ça très bien. Et puis bon, il distingue aussi plusieurs silences. Ce qui est beau, c'est qu'aussi, il fait rayonner le neutre, à partir de la figure silence. Il envisage plus, il y a des silences plus ou moins neutres. Il y a des silences polémiques, évidemment, qui sont pas tellement neutres. le silence neutre, ça serait peut-être le silence justement qui n'est pas dirigé contre un bavard. Oui, c'est, oui. Donc il essaye de classifier à l'intérieur des traits, toujours. Il pluralise, hein, toujours Barthes. C'est un très grand démocrate de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il pluralise les concepts. Le silence, ça devient en fait les silences. La colère, c'est les colères. C'est-à-dire que il y aurait une échelle de plus ou moins grand neutre selon les différentes figures qu'il passe en revue. Donc, le silence peut être plus ou moins neutre. Le silence neutre, c'est celui qui n'a rien à prouver, peut-être, qui n'a pas à prouver qu'il est un silence, quelque chose comme ça. Voilà.
D'accord. Peut-être on pourrait parler maintenant du relation entre le neutre, le langage et puis la littérature. Donc, le paradigme que le neutre entend déjouer ou esquiver est pour Barthes étroitement lié au langage. Cette suspicion envers la langue est énoncée très explicitement dans la leçon inaugurale qu'il prononce à son arrivée au Collège de France et donc dans laquelle il associe vraiment la langue au pouvoir. À l'opposé, la littérature apparaît dans la pensée de Barthes comme un moyen peut-être d'esquiver ces usages de la langue qui relèvent de l'ordre, de la loi, de l'arrogance, de ce qu'il nomme le vouloir saisir. Barthes affirme ainsi également dans la leçon inaugurale qu'il faut tricher avec la langue, qu'il faut tricher la langue. Est-ce que un des champs dans lesquels le neutre peut se développer serait peut-être la littérature?
Il a une définition très belle de la littérature. Il dit la littérature est une maîtresse de nuances. La littérature est une maîtresse de nuances. Et donc peut-être justement le neutre serait lié évidemment à cette question des nuances. La littérature serait le lieu absolu. Barthes dit aussi que la littérature c'est une et la puissance de la littérature vient du fait que la littérature contient tout. La littérature contient la science, contient la philosophie, contient tout un ensemble de choses, contient l'art, contient la société, l'économie, etc. Bon. Donc il y a une sorte de totalisation comme ça qui fait de la littérature qui est très belle, qui est très, très touchante, je trouve. Et en même temps, donc, il faut pouvoir faire que la littérature ne soit pas un pouvoir, ne soit pas, disons, une oppression. C'est la raison pour laquelle il distingue la langue. Qu'il qualifie de fasciste dans sa leçon inaugurale, avec la littérature qui serait justement le fait de déjouer la langue. En ce sens, c'est comme ça qu'on peut comprendre l'opposition langue-littérature. La langue est une contrainte, il appelle ça fasciste. Bon, ça a fait couler beaucoup d'encre. Moi, à mon avis, je pense qu'il a tout à fait raison de dire ça. Aujourd'hui, les humanistes barthésiens disent « mais non, il s'est trompé ». C'est extraordinaire. Quand on entendait les héritiers de Barthes, ils disent « mais Barthes dit n'importe quoi, parfois, il dit que la langue est fasciste ». Non, il a raison, bien évidemment. Mais la littérature est là pour aménager, finalement, ou neutraliser peut-être ce pouvoir. Par exemple, par le haïku, par exemple, par le fragment, par exemple, par la construction aléatoire des figures. Bon, l'art du fragment, c'est évident. Par rapport à l'autoportrait, par exemple. Comment faire un autoportrait qui ne soit pas narcissique? Roland Barthes par Roland Barthes. C'est un autoportrait dans lequel il y a, disons, une sorte de sujets qui seraient en partie vidés. Bon, quand par exemple il parle de lui à troisième personne, ou quand il fantasme des choses, ou quand il met en épigraphe, bien sûr, tout ceci doit être envisagé comme dit par un personnage de roman, comment il se pense lui-même comme un personnage de roman, etc. La littérature, de ce point de vue-là, doit toujours inventer et créer des formes qui lui permettent d'échapper au pouvoir de ce qui la constitue, c'est-à-dire la langue. La langue, évidemment, la littérature est faite de langue, bien sûr, donc il faut tricher la langue en essayant d'inventer des procédures qui permettent, disons, de trouver une liberté fondamentale du sujet. Et voilà. Alors, simplement, c'est une. Il triche la langue, mais d'une façon soft, je dirais Barthes. En ce sens, Barthes. Peut-être qu'il n'a pas. Il n'a pas énormément. Il a triché la langue. Oui, c'est vraiment. Cette expression est étrange. Il n'a pas dynamité la langue. Voilà. Très important, ça, en fait. La différence entre Barthes et les positions, disons. Dur de l'avant-garde, on pourrait dire. Barthes a un problème avec l'avant-garde. Il est plus moderne qu'avant-gardiste. Ou alors, il serait peut-être. Je crée un paradigme, là, justement. Je ne sais pas comment m'en sortir, d'ailleurs, mais enfin bon. il y a les avant-gardes. Barthes n'aimait pas les avant-gardes, il faut quand même le dire de ce point de vue-là. Enfin, il avait un problème avec l'avant-garde. Hein. Au sens où, pour lui, l'avant-garde, c'est quelque chose de trop destructeur. surréalisme, etc. Bon. Mais on peut dire que les avant-gardistes, quand même, dynamiquent la langue. Guyotat, par exemple, pour prendre un exemple. Barthes n'est pas très intéressé par Guyotat. Pourquoi ? Parce que Guyotat veut recréer une nouvelle langue. Ce qui est vraiment un dynamitage total de la langue. Bon. Donc, du coup, ça donne évidemment des textes illisibles, au sens. Voilà. Alors, Barthes dit, il faut tricher la langue, c'est-à-dire assumer la langue, mais la faire dériver, la neutraliser dans ses usages. Bon, hein. Le fragment est sa grande opération, bon, dont il n'est pas évidemment pas l'inventeur, mais une façon quand même de penser par fragment. Bon, ça, c'est un peu l'influence de Nietzsche aussi, évidemment. Mais c'est important cette question. Il veut pas dynamiter la langue. Il n'aime pas trop il n'aime pas trop les positions finalement de dynamitage, de destruction, de d'hystérisation de la langue. Il veut, c'est assez neutre, je crois, et la décaler un peu, la dériver.
Un des points que vous évoquiez à l'instant, donc c'est la question du sujet. Donc voilà, il y a cette comment faire une autobiographie
non
autobiographique.
Oui,
oui. Et donc en fait, peut-être le cours de notes semble marquer un tournant autour de cette question. Enfin, il y a dans les années 60, Barthes proclame assez clairement la mort de l'auteur, et le cours de notes semble proposer une version plus modérée, ou en tout cas un peu plus travaillée de cette question.
Oui, ce qui me frappe toujours, c'est le parcours Barthes-Foucault, qui est finalement assez similaire de ce point de vue-là. C'est-à-dire vraiment le même parcours, c'est-à-dire une sorte de contestation du sujet, et puis ensuite on revient à la fin des années 70, disons, début des années 80, une manière de repenser le sujet. Évidemment, c'est pas du tout le retour du sujet, c'est le retour d'un autre sujet. D'un sujet neutre ou neutralisé, c'est-à-dire à ce moment-là. Donc il a fallu bien sûr passer par ce mouvement justement structural, ce mouvement de désidentification finalement, mais ensuite, Barthes dit bien en introduction du cours sur le neutre, il dit qu'il ne faut pas refouler le sujet. Au fond, c'est peut-être là que se situe la rupture, disons de la fin des années 70, à partir du Roland Barthes par Roland Barthes et des travaux de Foucault sur la subjectivité. Il ne faut pas refouler le sujet, c'est-à-dire qu'à l'origine du cours, il dit bien qu'il y a un fantasme, le fantasme de neutre, et que ce fantasme doit être exposé, au fond. Ça, c'est très beau, c'est-à-dire que de plus en plus, Barthes va aller vers une parole à la première personne, vers une parole, disons, plus... qui ruse moins avec elle-même, et dans ses cours il voit le principe de création finalement comme un principe de non-refoulement du sujet, ce qui quand même est évidemment une manière de contester une certaine doxa des années 60 qui commençait à devenir un peu pesante aussi, c'est-à-dire qu'il avait lui-même contribué à créer d'ailleurs, dans le sens que Barthes est une sorte de traître magnifique. Encore une fois, pour moi, traître, c'est positif, hein, c'est au sens de Sartre, hein, c'est-à-dire un écrivain est toujours un traître, dit Sartre. Hein. Barthes, après la mort de l'auteur, bon, ben, il faut passer à autre chose à un moment donné. C'est-à-dire que ce qui est magnifique chez Barthes, c'est sa grande historicité. C'est quelqu'un qui pense son époque à chaque fois. Il a un grand sens du présent. Il dit toujours cette idée que je trouve très belle. Il dit, la mode, c'est la vérité. C'est une chose magnifique. C'est-à-dire bon, il a contribué lui-même évidemment au structuralisme, et puis ensuite il faut passer à autre chose, c'est-à-dire il faut passer ensuite à une autre énonciation qui ne soit pas un retour à, mais une énonciation nouvelle qui place le désir au centre de l'énoncé justement. Il faut assumer de parler avec ses fantasmes. Et comme le neutre est l'un de ses grands fantasmes, eh bien, je vais parler du neutre. Et ça dessine du coup une autobiographie qui n'est pas évidemment une autobiographie spontanéiste, brutaliste, une autobiographie des caniches d'aujourd'hui finalement, mais une autobiographie qui est évidemment beaucoup plus subtile, c'est-à-dire qui est indirect, qui est en pointillé. Voilà, qui est en pointillé. Et ce cours est très autobiographique, mais c'est en pointillé. C'est comme ces portraits, finalement, qu'on, qu'on dessine quand on est petit, ou je sais pas, enfin, on constitue une espèce de petite figure comme ça avec des pointillés. Il apparaît quelque chose, mais ce n'est pas une immédiateté. En ce sens, il reste fidèle, d'une certaine manière, au structuralisme, c'est-à-dire l'idée que, bien sûr, le sujet est prédéterminé par un certain nombre de structures, de contraintes objectives, mais il va réintensifier la notion de sujet, d'une autre manière. C'est en ce sens aussi qu'on peut dire qu'il y a une intensité dans le neutre. C'est-à-dire, je parle bien de moi, mais par des figures. Voilà. Par des figures. Je parle de moi, mais par des figures.
Un dernier point que j'aimerais peut-être aborder concernant le neutre, c'est la relation entre le neutre et les pratiques artistiques. Les arts visuels sont complètement absents du cours sur le neutre, à part une petite note. Je sais même pas si elle, est-ce qu'elle a été énoncée ou ça fait partie des figures qui n'ont pas été que Barthes n'a pas eu le temps de développer.
Le
minimalisme.
Il en parle un petit peu. Il en parle brièvement, trop brièvement d'ailleurs. C'est un grand regret, mais.
Il dit notamment, de mon point de vue, la simulation du neutre et du minimalisme est un contresens. Plus loin, il définit le minimalisme comme ce qui abolit l'affect.
Oui.
Peut-on dire que l'échec du cours de Barthes est de ne pas avoir su faire le lien entre ses recherches théoriques et certaines pratiques artistiques qui se développaient à l'époque, notamment l'art conceptuel et le minimalisme?
Oui, ça c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Comme j'ai dit tout à l'heure, Barthes ne connaissait pas toujours ce dont il parlait. Il est évident qu'il connaît très mal, disons, les avant-gardes minimalistes et conceptuelles des années 60-70, qui, à mon avis, l'auraient beaucoup intéressé. Je postule un Barthes de fiction, là, mais et quoi qu'il en dise. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il le dit que c'est vrai. Et surtout, je crois penser que ici, il a une vision du minimalisme qui n'est pas allé y voir par lui-même. Ça me semble assez évident dans ce cas précis. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il reproduit, on pourrait dire là, un discours dominant sur le minimalisme, qui est que le minimalisme ou l'art conceptuel, bon, c'est pas la même chose, mais enfin, n'entrons pas dans les détails, serait sans affect. Ce qui est évidemment la doxa, là, pour le coup, sur l'art conceptuel. Alors qu'évidemment, pour moi, l'art conceptuel est l'application même de cet oxymore, qui est le neutre intense. Mais ici, on voit bien que Barthes esquive le sujet assez vite, car il ne fait que reprendre cette idée d'une séparation entre affect et concept. Or, toute son œuvre démontre le contraire. C'est pour ça que mon esthétique fiction n'est peut-être pas si fictionnelle que ça, au sens où je suis sûr que Barthes, si on lui avait, disons, indiqué plus précisément les voies, il faut quand même dire que les très grands intellectuels français n'ont pas été spécialement sensibles, les autres n'ont pas été non plus tellement sensibles à ça, que ce soit Deleuze ou etc., n'ont pas été beaucoup plus clairvoyants sur ce point. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, on réutilise, bien sûr, ces grandes figures des années 60, mais... Donc je disais, pour simplifier les choses, que toute son œuvre est justement l'affirmation de la liaison du neutre, donc toujours entre le concept et l'affect. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il aurait été très intéressé par ce type d'art, mais disons qu'il n'y a pas eu accès. Et ça pose le problème des rapports entre philosophie et art. Mmh. Comme par hasard, les jeunes philosophes aujourd'hui s'intéressent bien sûr évidemment à l'art. Et ça, c'est un trait nouveau par rapport à la génération précédente des grands maîtres, etc. Qui sont formés. C'est-à-dire qu'en fait, il faut prendre Deleuze, il faut prendre Foucault, il faut prendre Barthes comme des gens qui sont justement des producteurs de pensée, qui ont eu assez peu de bonheur dans l'applicabilité de leur théorie, si je puis dire. Ça fait toujours rire que Deleuze érige comme grand écrivain Michel Tournier. Ça me fait rigoler. Bon, je suis le seul à le dire parce que, évidemment, tous les Deleuziens occultent soigneusement cet aspect-là. Moi, je n'aime pas beaucoup Michel Tournier. Ça ne me semble pas être un écrivain très intéressant. Bon. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, bien sûr, c'est le problème du contact entre philosophie ou intellectuel et l'art de leur temps, qui a quand même été largement, c'est vrai, peu performant dans ces années-là, à mon avis.
Mmh. Voilà. Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'en fait, enfin, Barthes a été très important pour cette génération d'artistes-là. Enfin...
Tout à fait. Ce qui est magnifique, et ça, ce qui est très beau, c'est que, bien sûr, les pratiques artistiques contemporaines sont très irriguées par ces penseurs-là. Mais finalement, c'est pas grave qu'il n'ait pas vu, ça n'a aucune importance, finalement. Barthes, pareillement, sur la photographie, il a une approche qui est beaucoup trop indicielle de la photographie. La Chambre claire est un très beau livre, il développe une théorie de la photo qui est excellente, magnifique, mais il a une conception de la photographie qui est toujours lors de la référence. La photo est une référence. Il n'envisage pas qu'une photo puisse être une construction fictionnelle, par exemple, ou quelque chose qui n'est pas une preuve. Peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que les concepts peuvent être réactivés aujourd'hui par les artistes. Après tout, les philosophes et les intellectuels ne peuvent pas non plus tout faire. Ils ne peuvent pas non plus à la fois produire des concepts, écrire des bouquins et se tenir au courant de l'art contemporain. Il faut essayer de faire tout, mais c'est pas toujours facile. Donc parfois, au fond, je me demande toujours, c'est un sujet qui est peu abordé d'ailleurs, c'est comment ils découvrent les œuvres de leur temps. Ça, c'est quelque chose qui bon, voilà, c'est... Pourquoi Barthes n'a pas été plus en contact avec des gens? Ça veut dire qu'il y avait des gens qui autour de lui peut-être ne lui faisaient pas connaître des choses qui auraient pu l'intéresser. Du coup, Barthes a simplement eu une connaissance de seconde main. C'est vrai que après tout, si on montre de l'art ultra conceptuel à quelqu'un qui n'y connaît rien, comme moi il y a 10 ans, j'aurais peut-être eu le même réflexe. Je me serais peut-être dit qu'est-ce que c'est, etc. Donc voilà, ça c'est secondaire finalement.
D'accord. Peut-être qu'on peut maintenant passer à la deuxième partie de cette rencontre, qui est donc qui s'articule autour de votre récent livre, donc Paris, musée du XXIe siècle, 10e arrondissement. Je crois que vous vouliez peut-être lire un court extrait. Donc en deux mots, ce livre est donc une description du 10e arrondissement et de ses donc 155 rues. Place, quai, etc. Voilà.
Bon, je vais lire juste une rue, ne vous inquiétez pas. Je vais lire la rue de l'Échiquier. La rue de l'Échiquier, 390 x 15 mètres, indique une méthode descriptive, l'échiquier de la rue. Si je réussis à quadriller Paris entièrement, projet fou, ce sera de toutes les manières échiquéennes possibles. Déplacement long de la tour, diagonale du fou, marche lente du roi, trajectoire polyvalente de la reine, saut du cavalier, micro-trottoir du pion. Un palindrome signé Nathan a failli me faire manquer au 45, fondu dans l'alignement que seule une grille vient rompre, la discrète église des catholiques Maria Vit, Mariae, Vitae, Imitantes, imitateur de la vie de Marie. L'église, plus hiératique lorsqu'elle est occulte et latinisante, est pourvue d'une devise étrangement peu chrétienne. Aucun de ceux d'entre nous qui vivront éternellement n'est responsable de ce qui s'est passé il y a bientôt 100 ans. À quel événement est-il fait allusion? Le caractère tyrannique des religions, est-ce qu'elles ont de plus beau, a fortiori lorsque le rite le prend en charge? Les catholiques ne voient pas d'un mauvais œil l'expansion actuelle de l'islam, qui leur redonne des forces par émulation. De l'hôtel Holiday Inn déboule deux poufias en survêtement fashion. Sur leur cul est marqué « Sweetest ». Au 34, un pressing crasseux se conteste lui-même. Il vit dans la haine de soi. Au 24, le théâtre de verre, lieu alternatif militant écolo tiers-mondiste agite-prop, puise sa raison d'être dans l'intermittence. Être en ville procure une joie neutre, celle de l'écoute flottante. C'est vrai que dans le sud, tout le monde a plein de maillots de bain. C'est vraiment des habitudes, quoi. Portable. Je croise un groupe d'hommes. Qu'est-ce qu'on peut croiser de plus désagréable? Alors qu'un graffiti politique très bien écrit, que l'on interdise les prisons de type F en Turquie, rend le message légèrement virtuel. Au 12, une plaque polémique mentionne F. Chester fusillé par les Boches. Le caractère politiquement incorrect des lieux de mémoire est rare, et d'autant plus efficace qu'au lieu de précipiter les conflits dans l'oubli, il les maintient au chaud. Son but est atteint, garder les passions intactes, au lieu que les plaques et monuments traditionnels ont une capacité de refroidissement rapide. Au 17, j'entre chez Daphonix, magasin de disques vinyles. Les univers de spécialistes, indifférents aux béotiens, avec lesquels ils sont souvent à la limite de l'amabilité, ont pourtant pignon sur rue. Tout intrus étant perçu comme un martien, je compulse avec un intérêt désintéressé les pochettes de disques, comme quand j'allais chez New Rose, mais à cette époque, 1982, j'étais concerné. Projet. Une description de pochette de 33 tours. Pendant qu'une chanson clame « Everybody wants to suck something », je dois admettre que tous les groupes me sont inconnus. Je ne croise pas même une star du type Bowie ou Kraftwerk qui pourrait faire passer mon vieillissement pour une compétence. J'essaie de repérer un type ouvert pour l'aborder, mais il met longtemps à choisir et discute avec le vendeur. Contact. J'attends donc qu'il sorte et lui emboîte le pas. Un peu surpris mais parétif, il m'explique qu'il s'agit de disques introuvables sur d'autres supports. J'y laisse beaucoup d'argent. Au 48 vivait Robertson, l'inventeur du parachute. Ah, toutes les cervelles mixées par Paris.
Dans la description du livre qui est en quatrième de couverture, vous utilisez cette expression de l'œil en marche. Donc mettant peut-être en valeur l'actif d'une pratique qui est habituellement associée à une certaine forme de passivité, enfin, donc la déambulation.
Oui, c'est difficile de passer du neutre à Paris Musée du XXIe siècle, et puis on est peut-être un petit peu lassé, mais bon. Bon, c'est un livre dans lequel, oui, effectivement, j'ai essayé de conjuguer, là c'est peut-être le côté neutre justement, l'œil et le pied, c'est-à-dire la cervelle et les jambes. C'est-à-dire, au fond, j'ai donc décrit l'arrondissement dans lequel je vis à Paris, le 10e arrondissement, en l'épuisant, et en m'épuisant aussi d'ailleurs, c'est-à-dire en décrivant toutes les rues, puisque pour moi la ville est à la fois une sorte de panorama, c'est-à-dire la ville, notamment Paris, enfin, en tout cas ce quartier, disons, est extrêmement... saturé, c'est-à-dire visuellement on est sans cesse, disons, appelé par la ville. C'est l'avantage de la ville sur la campagne. La campagne, pour moi, il n'y a rien à voir. Peut-être parce que je ne sais pas la voir, mais bon. La ville, évidemment, est extrêmement sollicitante pour l'œil. Et en même temps, il faut la pratiquer, c'est le deuxième aspect. C'est qu'on ne peut pas se contenter de la regarder, il faut aussi la parcourir. Et ce que j'aime marcher dans la rue, c'est évidemment une activité également très concrète, qui, comme dans l'extrait que je viens de lire, implique certaines choses, d'entrer dans des magasins, de prendre contact avec des rencontres, des gens de hasard, etc. Enfin, et de marcher dans un territoire qui est très concret. Donc voilà, c'est le côté, disons, à la fois oculaire et ambulatoire qui m'intéresse. C'est ça qui me plaît. C'est peut-être là, il y a peut-être finalement un côté neutre au sens du et l'œil et le pied.
D'accord, quelque chose qui a l'air aussi très important, c'est ce mot qui fait partie du titre, qui est le mot musée. Donc voilà, peut-être qu'on peut penser ce livre comme une sorte de museum in progress.
Merci. C'était compliqué cette histoire de titre. Puisque finalement mon livre est un livre à double titre. Il s'appelle donc le 10e arrondissement. Et il y a une sorte de surtitre qui est Paris, musée du 21e siècle. Donc c'est compliqué parce qu'un livre à deux titres, c'est... Alors, là encore une fois, je me rends compte tout à coup en le disant que, bien sûr, il y a l'association de deux choses. C'est compliqué parce que déjà, ça veut dire qu'il y a un titre qui, pour moi, le 10e arrondissement est le titre. Et il y a un projet, un programme qui est Paris Musée du XXIe siècle, puisque j'ai le projet fou, comme je l'indique, rue de l'Échiquier, pas je ne sais plus combien, de décrire tout Paris. C'est-à-dire, j'aimerais finalement procéder à une description globale de ce Paris. Donc un projet qui peut évidemment prendre énormément de temps. Et donc, ce double titre fait que le livre est à la fois... Il y a à la fois un titre et son programme. Bon, ça, c'est le côté un peu conceptuel de la chose. Vous avez compris que j'aime bien ce côté un peu programmatique. Et il y a évidemment un double sens aussi dans le mot musée, puisque on me l'a reproché, d'ailleurs. Hein, on m'a dit, au fond, c'est problématique, cette question de musée. Donc, j'assume évidemment totalement ce double sens du mot musée, mais c'est parce que souvent, les gens ne voient qu'un seul sens. C'est-à-dire, d'ailleurs, assez amusant, c'est qu'aujourd'hui, le mot musée est devenu quasiment négatif. C'est-à-dire que les gens m'ont dit, finalement, vous faites de la ville une ville-musée. Je dis non, pas du tout. Musée a un sens, effectivement, qui est devenu négatif, qui est peut-être le sens dominant. Ce qui est assez comique, c'est que les gens qui disent ce sens négatif, ce sont des amateurs d'art, en général. Bon, il y a le sens, effectivement, ville-musée. Mais il y a aussi le sens positif, qui est le sens originel, c'est-à-dire le sens où Paris est une ville dans lequel il se passe des tas de belles choses, on pourrait dire, voilà. Donc j'ai voulu maintenir les deux sens du titre. À la fois mon livre est une dénonciation, si on veut, mais encore j'ai hors de ce mot, mais enfin bon, je le dis quand même, est une, disons, j'attire l'attention sur le fait que Paris devient une ville musée, ce qui est quand même est un topos d'époque bien connu, et en même temps je dis que le musée a quelque chose de splendide en lui-même, c'est-à-dire que finalement le livre est une manière de considérer la ville comme une œuvre d'art totale. Voilà, c'est les deux aspects du sens musée. D'ailleurs, ce qui me plaît dans les musées, c'est qu'évidemment, dans les musées, il y a à la fois des chefs-d'œuvre et des croûtes. Je crois que c'est évident quand on va soit dans les musées anciens comme le Louvre, où il y a des trucs sublimes, et puis on tombe sur que j'aime. Et dans les galeries d'art, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que il y a une. C'est ça que j'aime au fond. Et Paris est également un musée de ce point de vue-là. C'est-à-dire que on passe sans arrêt d'une chose à une autre. D'une chose stupéfiante à une chose innommable, et c'est exactement la même chose finalement dans le rapport que l'on peut avoir à l'art ou à la littérature. Il y a une extraordinaire variabilité des œuvres et des pièces, soit dans les lieux d'art, soit dans la rue. Ce que j'aime à Paris, c'est que il y a des choses complètement hétérogènes. C'est un livre évidemment fondamentalement hétérogène. D'ailleurs, vous avez vu qu'il y a des choses. Enfin, peut-être cette petite lecture, c'est comme ça, quoi, sans arrêt. C'est-à-dire il y a des choses qui sont poétiques, des choses qui sont contestables, des choses qui sont...
Voilà. Les rues sont d'ailleurs assez souvent appelées des pièces.
Oui, oui, tout à fait. Je suis parti... Mais ça, je n'avais pas l'idée au départ. Je savais que je voulais quadriller tout Paris, d'où ça, c'est certain. C'est pour ça que le titre, en fait, c'est très prétentieux ce que je vais dire, mais j'ai pensé à Balzac. C'est-à-dire qu'en fait, un écrivain que j'aime énormément, vous savez que la comédie humaine, en fait, Balzac en a eu a eu l'idée du titre. Au milieu, il avait déjà écrit une dizaine de romans, et puis tout à coup il s'est dit, ah mais tiens, ça va être la comédie, mais je vais faire le portrait de la société. Alors, moi j'ai eu le titre avant, si je puis dire. De ce point de vue-là, bon, c'est pour ça que je me suis dit, est-ce que je vais mettre ce surtitre tout de suite? Ça fait un peu lourd, ça fait un peu, il y a un côté monumental, disons. Bon, et puis je me suis dit, allez hop, allons-y, tant pis, je serai taxé de monumentalisme, je m'en fiche après tout. Et puis bon, évidemment, c'est très... Voilà, c'est cette idée de musée m'est venue à l'origine, si on peut dire. Mais ensuite, c'est aussi évidemment la fréquentation avec l'art contemporain qui modifie beaucoup mon regard sur les choses, c'est sûr. C'est sûr.
L'art contemporain est assez présent dans ce livre. Donc il y a d'une part pas mal d'artistes qui sont cités, quelques œuvres. Il y a Klosky ou Jeff Wall, par exemple, qui reviennent assez régulièrement. Puis il y a également le fait que vous inventez régulièrement des œuvres dans le livre, qui sont donc énoncées comme des œuvres d'art involontaire, qui sont des sortes de ready-made trouvées dans l'espace public. Et puis il y a enfin peut-être une vie après le livre. Enfin, le livre a eu pas mal d'échos dans le domaine de l'art contemporain. Il y a eu notamment cette exposition... à la galerie Valois, qui était organisée par Jean-Max Collard, et qui reprenait un peu le protocole du livre.
Oui. Oui, l'art contemporain, évidemment, me nourrit beaucoup. Il y a quelque chose dans ce livre, il y a une lutte, d'ailleurs, entre la littérature et l'art contemporain. Mais une lutte positive, bien sûr. C'est-à-dire, il y a des références littéraires et des références artistiques et finalement l'un des sous-thèmes du livre, mais je m'en suis aperçu aussi au fur et à mesure, c'est le fait que ces deux domaines au fond me nourrissent. Bon, je suis littéraire fondamentalement, je suis écrivain, j'enseigne la littérature, je connais mieux la littérature disons, mais l'art contemporain est une chose qui m'intéresse évidemment énormément. Donc ça c'est assez curieux, il y a une sorte de dialectique en fait qui vient nourrir le livre entre Baudelaire et Klosky, quoi, en quelque sorte, qui sont pour moi au fond des frères d'une certaine manière, ce sont des gens qui ont des rapports. Enfin, j'adore encore une fois établir des rapports entre des gens qui sont pas forcément bon. Oui, il y a ces histoires d'objets d'art involontaires, il y a ces histoires de... Donc, ce sont ça qui sont sollicités par la promenade dans la rue. On voit des fois des trucs tout à fait étonnants, qu'ils ont été déposés là, etc. Et puis, comme le livre est un livre très mental aussi, c'est évidemment aussi tous les projets. Je mentionne des projets, par exemple... là, un projet littéraire que j'ai, qui est lié précisément à cette entrée dans la lecture que j'ai faite dans ce magasin de disques où je ne serais jamais allé puisque j'écoute assez peu de musique. Enfin, je suis beaucoup moins fan de musique que je n'ai pu l'être, comme j'en fais l'aveu dans cette petite lecture. Mais tout à coup, donc il y a une rubrique qui s'appelle projet dans le livre. C'est ces projets qui naissent au cours de la marche, au cours donc de l'exercice concret de la visite en ville. Et tout à coup, bon, par exemple, d'écrire des pochettes de disques est un projet littéraire là que je suis en train de commencer. C'est-à-dire, bon, en ce sens, c'est stimulé et qui ensuite ne demande qu'à se nourrir aussi de réflexion ou de production d'artistes. Je pense à Christian Marclay, par exemple, un artiste que j'ai découvert récemment qui m'a beaucoup qui vraiment m'a beaucoup intéressé, c'est-à-dire l'idée de prendre les objets de la musique comme le support de son inspiration en quelque sorte et non pas la musique en elle-même. Bon, ce genre de choses. Bon, donc voilà, on pourrait dire que ce livre au départ en quelque sorte a au moins deux figures tutélaires qui sont Baudelaire et Pérec, qui sont mes deux écrivains préférés peut-être. Bon, ça sont vraiment des références ultra connues mais je les assume totalement et ensuite j'aime bien aussi renouveler ces grands maîtres pour moi par l'extraordinaire usine à gaz qu'est l'art contemporain, quoi. C'est-à-dire, voilà. Et donc de créer des résonances et du coup qui viennent justement se nourrir, s'entremêler, se combattre parfois aussi. Enfin, c'est très compliqué.
Vous évoquiez à l'instant enfin, cette rubrique projet, oui. En fait, qui fait partie d'une série de mots et d'expressions qui constituent ce que vous appelez des bornes,
oui.
En fait, qui viennent ponctuer la lecture. En fait, bon, le livre est assez, l'écriture est très compacte. Il y a très peu de passages de paragraphes, etc. Par contre, il y a ces mots récurrents qui viennent, donc qui sont toujours présentés en italique et qui viennent introduire des phrases ou des idées. Donc il y a les projets, il y a les méthodes, des informations implicites, des vies antérieures, des images mentales, des ambiances, des pièces sonores. Il y a également des incursions dans le monde contrefactuel. Voilà. Est-ce que vous pourriez parler de la place de ces bornes dans l'écriture?
Oui, donc ces bornes, ce sont des rubriques qui reviennent pour structurer un peu le texte. Elles sont apparues au cours de l'écriture. C'est-à-dire que bon, j'ai eu le désir donc de décrire toutes ces rues, ces 155 rues du 10e arrondissement, et puis bien sûr, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, j'avais des obsessions qui reviennent, comme tout le monde, et donc j'ai rééprouvé un certain nombre de choses au contact même de la marche, et j'ai dû les matérialiser en fait sous ces bornes. Bon, par exemple, je sais pas, contact, le fait qu'au cours de cette déambulation gigantesque, forcément j'ai rencontré des gens, bon, ne serait-ce que, alors soit de manière volontaire, en entrant par exemple chez un commerçant, ou par exemple le personnage que je contacte pour avoir des renseignements sur l'achat de disques, ou bien de manière involontaire quand un vendeur de cravates sur le boulevard Magenta vous propose des ceintures Dolce Gabbana, bon, enfin, etc. Donc à ce moment-là, il y a évidemment quelque chose qui se fait. Et donc, évidemment, la rubrique contact est venue tout à coup nourrir les choses. Et ça a été d'un grand secours pour écrire ce texte, parce que j'ai eu très peur que le lecteur se perde complètement dans cette espèce de jungle des villes, dans la mesure où effectivement le texte est compact et c'est assez touffu hein, de ce point de vue-là. Donc ces bornes sont venues se grossir au fur et à mesure le texte. Et ensuite, on permet, je pense, de l'aérer ou en tout cas de le structurer, à la fois pour le lecteur, c'est-à-dire que le lecteur se retrouve dans un certain nombre de bornes, comme il y en a plein, figures locales, dangers, fait de heurter un objet, par exemple, quand on marche, c'est assez fréquent. Le mobilier de normes, par exemple, je suis assez frappé, évidemment, de l'extension de ce type de mobilier dans les villes, Paris, comme Paris, par exemple. Et donc, ces bornes permettaient à la fois de structurer le texte. Ça c'est mon côté un peu psychorigide et en même temps ça permettait aussi pour le lecteur de trouver des éléments de guide un peu dans cette dérive.
Il y a cette curieuse expression toujours en quatrième de couverture qui est donc permettre au lecteur d'entrer dehors, c'est
oui,
ça?
Oui, entrer dehors, oui, c'est-à-dire que comme j'ai passé 3 ans disons à écrire ce livre et que j'étais quand même très très souvent dehors J'ai eu l'impression à un moment donné que les choses s'inversaient, c'est-à-dire que je n'habitais plus chez moi, mais j'habitais dans le dixième, enfin en tout cas dans, j'habitais dans la rue, enfin, bon, de manière évidemment métaphorique, mais j'ai tout à coup, à chaque fois que j'allais travailler, enfin pour écrire, c'était au fur et à mesure, bien sûr, plus ça allait, plus j'étais dedans, mais dehors, au fond. C'était à la fois très agréable et quand même assez curieux.
Très bien. Écoutez, voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions
merci.
Dans la salle.
Je reviens au thème du neutre.
Oui.
J'aurais une question, donc est-ce qu'on pourrait définir, si on voulait définir justement le neutre, qui est une quête un peu impossible, comme pas comme une synthèse qui serait entre une thèse et une antithèse, qui serait un lieu où on arrive, mais plutôt comme de part. Est-ce qu'on on pourrait se rapprocher du concept de ligne de fuite chez Deleuze?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, là où vous avez raison, c'est-à-dire que ce n'est pas un art de la synthèse. Le neutre n'est pas un art de la synthèse, ça c'est sûr. Ça c'est certain. Au sens où effectivement, le neutre, c'est plutôt échapper à un enfermement dialectique. Alors peut-être... Est-ce que ça recoupe la ligne de fuite chez Deleuze? Je ne suis pas assez deleuzien pour le dire. Mais voilà. Mais peut-être il y aurait effectivement des recoupements à ce moment-là entre Barthes et Deleuze. Oui, oui, c'est très certainement. Mais oui, oui. Oui, c'est... Pas si les deleuziens, effectivement, doivent certainement... produire leur propre effectivement concept avec cette ligne de fuite, mais oui. Mais je ne sais pas assez justement.
Une autre question?
No problem.
je voulais demander aussi, est-ce que vous auriez des exemples chez vous directement d'une autre dans les arts visuels, dans l'art contemporain, ce qui m'intéresse beaucoup dans le domaine de l'art contemporain aujourd'hui, de ce qui vous semble intéressant, donc neutre, mais intéressant justement, et passionnant. Voir des artistes, voir des œuvres même.
Oui, bien sûr. Bon, il y a quelqu'un avec qui, bien sûr, je partageais cette fascination pour le neutre, mais il est mort, et c'est Édouard Levé, qui était un très proche ami, et nous avions de longues discussions sur ce concept de neutre, et que lui-même a, je pense, a très bien exploité dans ses photos de reconstitution, par exemple, dans sa série Reconstitution, ou dans sa série, par exemple, sur la pornographie, c'est-à-dire comment neutraliser la pornographie, qui est une imagerie visuelle extrêmement forte, eh bien en reconstituant des scènes pornographiques habillées, par exemple, avec les personnages habillés, bon, qui donne une chose, pour moi, une œuvre très, très nourrissante. Voilà, c'est... Je pense à ça immédiatement, parce qu'évidemment, pour moi, le neutre est tellement lié à Édouard, et à cette amitié que j'ai eue avec lui, et à ces choses-là. Lui travaillait dans cette direction, c'est évident. Travailler dans cette direction, à la fois littérairement et artistiquement. Voilà, c'est le premier nom qui me vient tout de suite à l'esprit, parce que c'est affectif, évidemment, mais c'est aussi, je veux dire, ça correspond, je pense, à cette question-là. Voilà. Il y en a d'autres, hein, mais pour moi, c'est... Voilà, c'est... Je crois que c'est un concept extrêmement riche pour l'art contemporain. Bon, Christophe Gallois ne démentira pas sur ce sujet. Et c'est parce que c'est quand même, ça va dans beaucoup de directions. Et pourtant, c'est pas un concept qui se dilue, je pense. Hein, je pense que c'est quelque chose qui est très nourrissant, qui peut vraiment informer des pratiques extrêmement différentes. Extrêmement différentes. C'est ça qui est beau, en fait. C'est un peu le rapprochement avec la pensée de Barthes, quoi. Barthes va étaler des neutres un peu partout. Mais le concept garde sa, enfin, le concept, le, ça, ça garde sa force. Hein, c'est...
Justement, quand vous parlez de ces photos-là, oui. d'essayer de neutraliser la pornographie,
oui.
Vous n'aboutissez pas au neutre. En fait, vous détournez quelque chose qui pourrait avoir un sens pornographique et vous aboutissez à un autre sens, mais vous n'aboutissez pas au neutre. Enfin, je veux dire, comme on disait, effectivement, le neutre, on peut pas l'atteindre. On peut simplement.
Oui.
Ça peut être une quête.
Oui.
Et ce qui va être intéressant, justement, ça va être la quête. Mais
oui,
c'est-à-dire mais ça peut pas être fait évidemment une fin en soi. Donc je voulais répondre simplement, moi, j'avais une question par rapport à l'engagement.
Oui.
Est-ce que justement ça peut être une forme d'engagement le neutre quoi,
Il y a deux choses sur les photos sur la question de la pornographie, les photos d'Edouard Levé. Je pense que ce qui est assez beau, c'est et en ce sens pour moi c'est une œuvre neutre. Au sens où l'intensité de la pornographie ne disparaît pas parce que les corps sont habillés. Les corps sont habillés, donc il y a neutralisation. La pornographie finalement est une question purement rhétorique, ce sont des figures. Bon, il y a simplement les figures ne sont pas infinies là, par contre, à la littérature. Par définition, la littérature, il y en a 5 ou 6, quoi, en gros. Donc, à ce moment-là, de ce point de vue-là, c'est très codé. Mais tout à coup, la pornographie apparaît bien sûr par neutralisation de son code essentiel, qui est que les gens doivent être nus, évidemment. Et là, il y a quand même une œuvre assez belle parce qu'elle suspend parfaitement, justement. Enfin, elle joue sur la tension entre les deux, entre la violence visuelle de la pornographie et sa neutralisation. Et sur donc, est-ce qu'il y aurait une politique du neutre, c'est ça en fait ?
Non, c'est vrai,
Il faut absolument, oui. Il faut qu'il y ait une politique d'une. Il faut, là, c'est peut-être le. Bon, Barthes écrit en 77. 77, c'est l'année du neutre, c'est l'année du punk aussi, mais enfin bon. C'est une petite chose un peu différente. Mais il est dans un contexte de la fin des années 70 où il veut un peu se débarrasser d'un certain discours politique très dominant qui est le discours des années 70. Mais je pense que là, pour moi, ça serait une piste, effectivement, vous avez raison de le souligner, très intéressante. Qui n'est pas tellement exploité par Barthes, et donc les artistes peut-être exploitent, ou enfin, sauriez dire ça mieux que moi, qui est à la fois le neutre comme politique et la politique du neutre, ce qui ne sont pas exactement les mêmes choses, mais il y aurait certainement effectivement un engagement politique au neutre. Ou le neutre comme procédure politique. Enfin, là je crois que c'est vraiment un champ à défricher, en tout cas, ça c'est sûr. Oui.
Oui. Bah, est-ce que justement c'est pas le désengagement ?
Alors non, justement là ça serait le mauvais neutre, parce qu'il existe aussi des mauvais neutres. Hein. Le mauvais neutre, c'est le neutre satanique. C'est-à-dire le neutre, à mon avis, hein, j'ai un peu réfléchi à ces questions, le mauvais neutre, ce serait justement le neutre, ce que j'appellerais baudrillardien. C'est-à-dire, parce que Baudrillard est intéressé par le neutre, mais le côté un petit peu, le cynisme disons de Baudrillard, c'est-à-dire le tout se vaut, tout est égal, finalement, la guerre en Irak n'a pas eu lieu, le représenté l'emporte sur le réel de façon totale, etc. Bon, ça serait un peu le neutre un peu diabolique, le neutre pervers, le neutre satanique. Baudrillard, d'ailleurs, est très habile de ce point de vue-là, mais il y a quand même un nihilisme. Il y a un neutre nihiliste qui n'est pas du tout le neutre barthésien. Et donc, il faudrait trouver, justement, une politique neutre qui ne soit pas une politique du désengagement, c'est-à-dire une politique du tout se vaut, du anything goes, à la Baudrillard, disons. Mais, bien sûr, il faudrait inventer des procédures, oui, des procédures. Enfin, il faudrait penser à la relation. Moi, j'ai pas du tout les réponses là, entre neutre et politique, qui justement permettrait d'éliminer l'aspect satanique ou ultra postmoderne du tout se vaut, du ni gauche ni droite.
Une question encore ? Bon, écoutez, merci beaucoup.
Et merci à vous, c'est très sympathique.